Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h56 sur RMC et RMC Story. Excellent réveil à tous. Merci d'avoir choisi Apolline Matin pour vous réveiller. On est ensemble jusqu'à 9h. Et alors attention, on en prend à l'instant. Donald Trump qui menace la France de droits de douane. Augmenter les droits de douane sur les vins et les champagnes français de 200%, il l'a dit à l'instant, c'est sa réponse à la France qui à la fois s'oppose à sa volonté de s'emparer du Groenland, mais qui pour l'instant menace également de ne pas rentrer dans son Conseil de la paix, une sorte d'alternative à l'ONU. Et il dit donc à l'instant, Donald Trump, que si Emmanuel Macron refuse de rentrer dans le Conseil de la paix, eh bien il va augmenter les droits de douane de 200% sur les vins et les champagnes français. Ça vous fait réagir, n'hésitez pas. Au 32-16, je vous attends, en particulier si vous êtes viticulteur ou travaillez dans ces domaines-là. Et puis plus globalement, est-ce que la manière très hiératique de Donald Trump de s'en prendre à la France et à l'Europe vous inquiète? Je vous attends au 32-16 pour y réagir. Et puis cette question ce matin, le 49-3, parce que ça y est, c'est le jour J. On ne savait même plus comment ça allait finir par atterrir, ce fameux budget. Eh bien donc, c'est ce soir, 49-3, le gouvernement qui va jouer donc sa responsabilité. Et à 7h40, toutes les explications du politologue constitutionnaliste Benjamin Morel, qui sera dans ce studio. Ça aussi, ça vous fait réagir. À 8h30, mon invité, ce sera Jean-Philippe Tanguy, le député RN de la Somme, le monsieur budget du Rassemblement National. Il est 6h58, on se retrouve dans un instant pour le journal de 7h. Excellent réveil à tous, il est 6h59, vous êtes bien sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de 7h avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Des droits de douane à 200% sur les vins et champagnes français. Menace de Donald Trump ce matin en réponse à Emmanuel Macron qui refuse de rejoindre pour l'heure le Conseil de la paix de Donald Trump. Le 49-3 comme dénouement à la crise du budget, regret et amertume pour Sébastien Lecornu, contraint de devoir revenir sur sa parole. Et vous entendrez le désarroi de parents après le rappel de Les Infantiles du groupe Nestlé.
Une colère ce matin, celle de Donald Trump.
Très remonté contre Emmanuel Macron, le président américain qui invite son homologue russe Vladimir Poutine à rejoindre le Conseil de la paix, s'est exprimé après le refus de la France de participer à cette initiative visant à résoudre les conflits internationaux. Et cela ne lui plaît pas du tout. Donald Trump le fait savoir à sa manière.
Ah oui, il a dit ça ? Vous savez, personne ne l'écoute, il ne sera plus en poste d'ici peu. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 200% de taxes sur leur vin et leur champagne, et vous verrez qu'il viendra.
Les mots donc de Donald Trump avant de s'envoler pour le forum économique de Davos en Suisse. Emmanuel Macron, il sera cet après-midi avec un discours d'autant plus attendu sur fond de tension, avec en toile de fond le Groenland que le président américain souhaite acquérir. Les menaces de rétorsion européenne ne lui font pas peur, ils ne vont pas résister bien longtemps, ajoute Donald Trump ce matin, alors que des avions d'une force militaire américano-canadienne sont en route pour le Groenland, exercice prévu de longue date coordonné avec le Danemark.
Il est 7h01 sur RMC. Sébastien Lecornu a donc fini par trancher.
Nous avons décidé, je dois le dire à titre personnel, avec une certaine forme de regret et d'un peu d'amertume, mais d'engager la responsabilité du gouvernement.
Et le budget passera donc par le 49-3, vous l'avez compris. Face à l'impasse, le Premier ministre a décidé de rétro-pédaler, renoncer à son engagement. Il engagera la responsabilité de son gouvernement dès aujourd'hui. Un premier 49-3 sur la partie recette du budget. Deux autres suivront afin de promulguer le texte avant mi-février. Et à chaque fois, il sera soumis aux motions de censure des Insoumis et du RN, avec l'espoir de survivre grâce au soutien Romain Cluzel des socialistes.
Et le patron des députés socialistes, Boris Vallaud, ne laisse aucune place au doute. En l'état, son groupe ne va pas voter la censure contre Sébastien Lecornu, même s'il n'est pas vraiment satisfait de ce budget.
Ah non, j'en suis pas fier, c'est pas le nôtre. Mais je crois que nous avons fait œuvre utile en ne perdant jamais de vue les hommes et les femmes pour lesquels on se bat.
Boris Vallaud cite notamment les dernières concessions de Sébastien Lecornu, comme la hausse de la prime d'activité ou le repas à 1 euro pour les étudiants. Mais tout cela ne convainc pas le député RN Laurent Jacobelli.
Au final, on a un très mauvais budget présenté par un Premier ministre qui finalement
sauf son poste, joue la durée, mais n'apporte aucune réponse au problème des Français.
Son groupe va déposer une motion de censure, tout comme les Insoumis, pour répondre au 49.3 utilisé par Sébastien Lecornu. Le Premier ministre dit activer cet outil avec regret, ce qui fait bondir la députée LFI Danielle Obono.
C'est du mauvais théâtre, il se pose presque en victime du coup de force antidémocratique. Il piétine l'Assemblée nationale et en vérité, c'est les Français et les Françaises qui l'insultent.
Mais ces deux motions de censure n'ont aucune chance d'aboutir sans les voix ni des socialistes ni des LR.
Il ne manquait pas ce matin à 7h40 les explications du politologue Benjamin Morel et notamment sur ce calendrier du 49-3 à rebondissement dans les semaines qui viennent. Et puis à 8h30, ce sera la réaction politique. Mon invité, ce sera le député RN Jean-Philippe Tanguy.
Le retour du débat sur la fin de vie, 8 mois après son adoption par l'Assemblée nationale. Les sénateurs vont se pencher sur les deux textes de cette réforme promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Le premier au sujet des soins palliatifs, le second sur l'aide à mourir. Le vote est prévu à la fin du mois sans garantie de succès.
Début ce jour de 3 jours de deuil national en Espagne au surlendemain de la catastrophe ferroviaire qui a coûté la vie à 40 passagers.
Et le bilan est toujours provisoire. Il pourrait s'alourdir au-delà des blessés hospitalisés, une quarantaine. Les secours s'activent dans les carcasses des deux trains à la recherche de survivants. Plusieurs personnes sont toujours portées disparues. Et pour leur famille, l'attente est interminable. Rachel Sadodine, envoyée spéciale RMC, s'est rendue à Cordoue devant l'un des centres d'accueil pour les familles de victimes.
Les yeux rivés au sol, la mine grave, des familles escortées par la protection civile entrent une à une dans ce grand bâtiment entouré de cordons de police sans s'arrêter devant les caméras de journalistes tenus à distance. Tous ici sont à la recherche d'un proche toujours porté disparu, Lourdes Escobar, psychologue à la Croix-Rouge.
Nous sommes là pour leur apporter un soutien face à leurs besoins émotionnels d'expression et de réconfort. Ils arrivent avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'angoisse et au fil des heures, même si nous essayons d'être là pour eux, cela devient de plus en plus pénible.
Certaines familles ont passé la nuit ici, scrutant leur téléphone dans l'attente d'une bonne nouvelle. Les avis de recherche se multiplient sur les réseaux sociaux, des photos d'un père, d'une fille, d'une amie. Pour tenter d'accélérer l'identification des victimes, la garde civile a ouvert plusieurs bureaux de prélèvement ADN, dont un ici à Cordoue.
Rachel Sadodine, envoyée spéciale RMC en Espagne. Le Premier ministre espagnol a lui promis une transparence absolue sur les circonstances de l'accident alors que les enquêteurs cherchent à comprendre les causes du déraillement du premier train venu s'encastrer dans le second. Les excuses du patron de Nestlé au cœur de la tempête après le rappel de les infantiles Gigoz et Nidal, des mots qui n'ont pas calmé la colère de parents de jeunes nourrissons. Ils ne comprennent pas comment une substance d'origine bactérienne a pu atterrir dans ces produits pour bébés. C'est le cas de ses parents rencontrés par notre correspondant à Lyon, Vincent Chevalier.
Quelques jours après sa naissance, la fille de Kimberley et Mathieu présente des symptômes inquiétants.
Elle régurgitait beaucoup, elle avait des spasmes, elle se tordait dans tous les sens.
Après plusieurs visites chez le médecin, le couple le découvre. Plusieurs références du lait qu'ils donnent à leur fille font l'objet d'un rappel.
C'était très compliqué, on s'est dit, on a empoisonné notre enfant. On lui a fait vivre ça alors qu'il vient juste de naître.
Des parents aujourd'hui en colère, comme Grégoire. Ce jeune papa envisage même la création d'un collectif, voire d'un recours en justice.
J'attendais justement de voir un peu où ça allait, jusqu'où ça allait aller. Si je vois qu'il y a vraiment d'autres parents bien remontés, ouais, ça laisse penser que je vais me lancer dedans.
Selon Nathalie Goutalant, avocate spécialisée en droit de la sécurité alimentaire, mieux vaut garder les produits suspects pour les faire analyser. Et si les symptômes persistent chez l'enfant,
demander au médecin qu'il constate, mais aussi qu'il fasse une démarche administrative, une déclaration obligatoire de toxi-infection alimentaire collective, puisque là, on se retrouve effectivement dans ce cadre-là maintenant.
De son côté, Nestlé s'excuse, mais le groupe ajoute n'avoir aucun cas de maladie en lien direct avec les produits concernés à ce stade.
Les établissements scolaires resteront fermés ce matin dans 109 communes de l'Aude au lendemain de fortes précipitations. Il est tombé jusqu'à 4 mois de pluie en 2 jours. La décrue amorcée de certains cours d'eau dans le département s'annonce particulièrement lente. Le retour de la Ligue des Champions, ce soir le PSG se déplace à Lisbonne face au Sporting avec l'objectif pour les Parisiens, 3e ce matin au classement, de valider leur billet pour les 8e de finale. La mission sera plus compliquée pour Monaco, attendu sur la pelouse du Real Madrid. Rendez-vous sur RMC ce soir pour cette 7e journée de Ligue des Champions à 21h. Et puis événement dans le monde du basket, la première titularisation de Victor Wembanyama pour le All-Star Game de la NBA mi-février. Giancarlotti, c'est inédit pour un Français dans ce match de gala entre les meilleurs joueurs du championnat américain.
Et oui, même la légende Tony Parker n'a jamais été titulaire en 6 participations au All-Star Game. Alors à tout juste 22 ans, Victor Wembanyama entre un peu plus dans l'histoire du basket français. L'an dernier, il était remplaçant, cette année pour sa 3e saison NBA seulement. Wemby intègre la liste des 10 joueurs titulaires pour l'édition 2026 de ce match de gala. Auteur d'un excellent début de saison avec la franchise des Spurs, le natif des Yvelines a séduit les fans, les joueurs et les journalistes chargés de voter pour former les équipes. Le 15 février à Los Angeles, le géant de 2m24 foulera le parquet aux côtés de grands noms du basket mondial, notamment le Slovène Luka Doncic, le Serbe Nikola Jokic et la légende des Golden State Warriors, l'Américain Stephen Curry.
Et le parcours sans faute des handballeurs français, 3e succès de rang hier soir à l'Euro face à la Norvège, 38-34 place désormais au tour principal. Ça débute jeudi avec une rencontre face au Danemark.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h08 et vous êtes nombreux à réagir à cette annonce de Donald Trump. Il menace d'augmenter de 200% les droits de douane sur les vins et spiritueux français. Bonjour Samuel.
Bonjour.
Samuel, vous êtes routier dans le Calvados, sur les routes peut-être d'ailleurs à 7h08.
Oui, c'est ça, oui.
Déjà, vous êtes dans quel coin ?
Je suis du côté d'Amiens.
Du côté d'Amiens. Samuel, comment vous réagissez ? Comment suivre, au fond, les annonces et les menaces de Donald Trump ?
Ouais, mais moi, je pense que votre président, il faudrait voir qu'il en est un peu dans le pantalon, parce qu'on en a marre de se faire marcher un peu dessus par tout le monde. Mmh. Et ben, s'il veut augmenter les droits de douane sur nos vins et nos champagnes, ben, moi, je dis qu'il faut arrêter de l'en vendre. Faut même pas lui en vendre, faut dire vous méritez pas notre vin et notre champagne, terminé, on vous en vend plus. Et nous, on augmente de 400% les droits de douane sur les produits américains. Et on va voir, parce que leur gaz de schiste, là, que nous, on n'a même pas le droit de produire parce que ça pollue trop, faut arrêter de l'acheter, quoi. Et puis on verra bien qui c'est qui va baisser son pantalon en premier.
Non, mais ouais. on en est là. J'avoue, Samuel, qu'on en est là, parce qu'on a vraiment l'impression. Je vous explique la scène pour que vous compreniez bien. En fait, Donald Trump s'apprêtait à monter dans son avion, direction d'ailleurs l'Europe, puisqu'il vient en Suisse à Davos au sommet de tous les grands patrons européens. Et avant de monter dans son avion, il est interrogé par un journaliste qui lui dit, le président français a l'air de rechigner à rejoindre votre conseil pour la paix que Donald Trump veut comme une sorte d'alternative à l'ONU. Et Donald Trump littéralement répond « Ah bon, il a dit ça ? » Ah bah de toute façon, d'abord, en gros, tout le monde s'en fiche parce que de ce qu'il dit, parce qu'il sera plus là dans quelques temps, Emmanuel Macron. Et puis vous savez quoi ? Je vais lui augmenter de 200% ses taxes sur les vins et spiritueux et on verra s'il rejoint pas mon conseil sur la paix. On est vraiment littéralement dans une forme de... on se demande même si ça a été réfléchi ou si c'est une réaction spontanée. Et puis Samuel, puisque vous demandiez quelle était la manière dont Emmanuel Macron devait réagir, à l'instant, sur BFM TV, on a récupéré visiblement, c'est la réponse de l'Élysée, un texto envoyé par Emmanuel Macron cette nuit à Donald Trump. Je vous le lis, Samuel ? My friend, mon ami. Donc déjà, en effet, c'est pas du langage de rapport de force, c'est plutôt amical. Nous sommes tout à fait en ligne, totalement en ligne sur la Syrie. We can do great things en Iran. On peut faire des grandes choses aussi ensemble sur l'Iran. Je ne comprends pas ce que vous souhaitez faire ou ce que tu souhaites faire. J'imagine qu'il se tutoie sur le Groenland. Allez, faisons des grandes choses. Je peux organiser un G7 juste après le meeting de Davos. Et puis let us have a dinner together in Paris on Thursday. D'ailleurs, il y a marqué deux fois together, ce qui montre que Emmanuel Macron a dû l'écrire un peu rapidement son texto. Let us have a dinner together in Paris, together on Thursday, before you go back to the US. Emmanuel, voilà le texto donc que le président de la République a envoyé.
Jeudi, je
il
traduis.
Propose donc un dîner jeudi après Davos. Samuel, c'est pas exactement le ton que vous imaginez, hein.
Eh ben voilà, il baisse son pantalon, on lui a encore rien demandé, il baisse déjà le pantalon. Moi je comprends pas, faut arrêter.
Après
la France, elle est puissante, on a les moyens de faire les choses à l'international et avec un président comme ça, on passe pour des rigolos.
Merci voilà. Samuel de votre réaction, vous le voyez, ça se passe absolument en direct, on vous informe en temps réel sur RMC, donc Donald Trump qui menace d'augmenter de 200% les droits de douane sur les vins et spiritueux français. Il est 7h11 sur RMC et c'est l'un des textes les plus sensibles de ce second quinquennat d'Emmanuel Macron, la loi sur la fin de vie. Elle arrive au Sénat aujourd'hui. Vous faites partie des opposants à ce que l'on appelle l'aide à mourir, mais qui pour vous n'est pas vraiment ça. Bonjour Emmanuel Hirsch.
Bonjour.
Professeur émérite d'éthique médicale, membre de l'Académie de médecine. Avec cette loi, pour vous, ce sont les plus fragiles qui risquent d'être ciblés. C'est votre parti pris et vous le défendez dans un instant sur RMC, 7h12.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h15 sur RMC et RMC Story. Le droit à mourir ou l'euthanasie débattu à partir d'aujourd'hui au Sénat. Le texte voté en mai dernier à l'Assemblée nationale pourrait d'ailleurs être largement remanié par les sénateurs. Pour vous d'ailleurs, il faut que les sénateurs s'en emparent. Emmanuel Hirsch, bonjour. Vous êtes professeur émérite d'éthique médicale et vous êtes membre de l'Académie de médecine. Ce qui vous inquiète, c'est que les plus vulnérables puissent être la cible d'une loi que personne ne pourra maîtriser. Voilà vos mots. Que voulez-vous dire ?
Je veux dire tout d'abord que j'attendais de la Chambre haute qu'elle résiste. Et là, elle a abdiqué avant même qu'il y ait du débat. C'est-à-dire, la Commission des Affaires Sociales a considéré que l'euthanasie était recevable, une euthanasie dans le cadre d'une sédation qui devient une sédation euthanasique dans le prolongement de la loi de 2016. Ça, c'est un premier point. Donc, on commence le débat au Sénat sans qu'il y aura véritablement combat. Et le combat, c'est pas pour ou contre l'euthanasie, c'est pour un certain nombre de valeurs à préserver, y compris s'il y avait l'ouverture, comme le souhaitait le Comité consultatif national d'éthique, sur l'euthanasie. Et déjà en commission des affaires sociales, un certain nombre d'amendements prudentiels ont été totalement rejetés, comme ça a été le cas à l'Assemblée. Ben, il y avait des amendements et qui c'est assez intéressant. D'abord, les personnes atteintes de troubles psychiatriques, est-ce qu'ils sont en faculté du discernement ou pas ?
Est-ce qu'ils ont la lucidité de décider véritablement de leur mort ?
Il y avait le délit d'entrave. Vous voyez, par exemple, aussi en psychiatrie, si un médecin peut être mis en cause parce qu'il va empêcher une personne éventuellement de se suicider, pour prendre un exemple de cette nature. Il y avait également dans les propositions intéressantes le fait de faire une évaluation a priori et non pas a posteriori de la validité de l'initiative d'euthanasie. Il y avait toutes les questions autour notamment de l'arbitrage, puisque c'est un médecin qui prend la décision dans le cadre d'une décision collégiale, mais sans que le deuxième médecin ne rencontre la personne. Il y avait tout un ensemble d'éléments, et j'appelle ça les critères de minutie. Mais ce qui est plus dramatique, c'est que sur 195 pays dans le monde, 10 ont déjà légiféré sur l'euthanasie. Et aucun de ces pays n'a pu résister à ses premières intentions. C'est-à-dire, on voit comment la loi évolue. Le dernier exemple intéressant et qui me paraît significatif, c'est le Canada, loi en 2016, qui est prêt maintenant à envisager l'euthanasie pour les maladies psychiatriques. Et ce qui est intéressant aussi, c'est les chiffres. Au Canada, vous avez 6,8% de personnes qui meurent aujourd'hui d'euthanasie.
C'est considérable.
C'est considérable. Si on projette en France, ça nous ferait... Et c'est là où c'est pas l'exception. Si on dit, effectivement, il y a des cas singuliers, j'arrive à le comprendre. Est-ce que des cas singuliers, on les met dans la loi ou pas? C'est une autre question. Mais j'arrive à comprendre. Je suis pas moins humain que l'est Olivier Falorni. Moi, toute la journée, je suis sur le terrain avec des personnes très âgées et autres.
Qui soutient...
Donc, je dis, si on va au fond des choses, peut-être qu'il y a des situations d'exception. Avant qu'on nous parle des situations d'exception, que tout le monde ait accès aux soins palliatifs.
Quand vous dites, alors il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Les soins palliatifs, effectivement, il était normalement dans la loi que tout Français puisse avoir accès à des soins palliatifs, c'est-à-dire à pouvoir soulager sa souffrance. On sait soulager la souffrance en France, mais pour des raisons aussi de moyens, au fond, il y a un certain nombre de départements où on n'y a même pas accès aujourd'hui. Ça, c'est ce que vous dites. Mais ce que vous dites, c'est que il y a même quelques garanties, de moins en moins, mais il y en a tout de même dans cette loi. Votre crainte, c'est qu'au regard de ce qui s'est passé, notamment vous dites au Québec, finalement, il y a des choses qui étaient interdites au début, mais qui petit à petit dérivent. C'est ça votre crainte?
Non, mais c'est pas une crainte, c'est un fait. Si on n'était pas avec du recul, la première loi, c'est 2001 aux Pays-Bas. Donc on a le recul. Maintenant, c'est les enfants, c'est les personnes qui, par exemple les couples, qui veulent mourir ensemble, quelle que soit leur pathologie ou pas pathologie, ont le droit. Ce que je veux dire par là, et je veux pas faire de la critique là-dessus, j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui éprouvent une souffrance aujourd'hui et qui nous écoutent. Une souffrance qui n'est pas que physique, qui peut être existentielle, relationnelle. Quand vous regardez, et c'est des statistiques intéressantes, que 89% quasiment des personnes qui se suicident en France aujourd'hui sur 100 000 personnes, ce sont des personnes âgées au-dessus de 74 ans. Ça pose la question, quel type de solidarité, quel type de sollicitude? Donc, ce qui m'inquiète, c'est que, en fin de compte, d'abord, le parlementaire comme Olivier Falorni, la présidente de l'Assemblée nationale, ont considéré que les sénateurs n'étaient pas allés encore assez loin, d'accord, alors qu'ils ont déjà ouvert, mais effectivement ils voulaient encadrer, notamment que ce soit des personnes qui soient vraiment en phase terminale et qui aient des douleurs réfractaires. Donc il y avait quand même dans la démarche de la commission des affaires sociales la possibilité
la volonté de mettre des garde-fous, comme on dit.
Et regardez, avant même qu'on soit dans le retour à l'Assemblée nationale, déjà un certain nombre de parlementaires contestent ces mesures. Donc vous pouvez vous imaginer la lalie. Et ce qui me paraît plus intéressant à savoir avec le sujet précédent, quand on parle de la réaction du président de la République, il en a fait sa chose, comme la présidente de l'Assemblée nationale. Il faut absolument qu'on se précipite. juste pour parenthèse, on a quand même déjà une loi sur la fin de vie.
D'une on a une loi manière. Sur la fin de vie.
Et on a une loi sur les soins palliatifs
qui
aussi.
Qui n'est pas aujourd'hui appliquée, celle sur les soins palliatifs.
Attendez, qu'elle ne soit pas appliquée, c'est pas vrai. Ce qu'il faut, c'est ce qui est dit, c'est qu'elle n'est pas attribuable à toute personne. Voilà. C'est-à-dire toute personne n'est pas éligible. Mais que le président de la République considère que ce soit sa priorité, qu'il veut laisser le message à la nation qu'il a été celui qui a permis l'euthanasie, pour moi, ça m'interroge. Et ce que je demande, et je termine là-dessus, c'est si on est dans une situation ambiguë, qu'on ait un référendum. Et je pense que c'est ça qui tranchera. Je pense que chacun d'entre nous est concerné. Et le jour où on mettra le bulletin pour le référendum, on pensera à soi, on pensera aux autres, et aussi à nos solidarités. C'est pour ça, et je termine là-dessus, que je ne suis pas contre une évolution. Je suis pour le fait qu'on soit solidaire des personnes vulnérables en fin de vie. Et vous avez aujourd'hui le collectif Les Éligibles qui s'est constitué de personnes en situation de handicap, de maladie chronique.
Ils ne se sentent pas abandonnés. Et voilà. Effectivement, les chiffres que vous donnez du Canada et du Québec interrogent sur ce point en particulier, d'une sorte de pression sur les personnes les plus âgées à, en quelque sorte, quitter ce monde pour ne pas reposer sur les petits frères des pauvres,
720 000 personnes. Et je termine là-dessus, sont en situation de mort sociale. Est-ce qu'elles attendent de l'euthanasie ou de la solidarité ?
Merci Emmanuel Hirsch d'être venu défendre donc votre parti pris ce matin, professeur émérite d'éthique médicale et membre donc de l'Académie de médecine. Il est 7h21 et l'historien d'Apolline Matin est entré dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur Chevalier, plusieurs célébrités dont le prince Harry ou Elton John attaquent le tabloïd britannique, le Daily Mail, au tribunal.
Et oui, en Angleterre, les tabloïds font et défont les réputations à Hugh Grant, David Beckham et même le roi Charles ont vu leur vie très très privée déballée dans la presse.
Vous nous en racontez l'histoire, il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 50 secondes sur RMC 7h22.
RMC, Apolline Matin.
7h23, Arthur Chevalier. Arthur, à Londres, un procès retentissant a commencé entre le prince Harry et le Daily Mail. Le Daily Mail, c'est donc un tabloïd anglais.
Oui, Harry accuse la presse à scandale d'avoir obtenu des informations sur sa vie privée de manière illégale. Alors, il faut bien dire que depuis la mort de sa mère, Lady Diana, en 1997, les tabloïds ne l'ont jamais laissé tranquille. Autre fait notable, Harry est le premier membre de la famille royale à se retrouver à la barre d'un procès depuis plus d'un siècle.
Cette presse à scandale, c'est une spécialité britannique.
Alors, en tout cas, elle a un pouvoir qu'elle n'a dans aucun autre pays. Cette presse explose dans les années 60 et une de ses premières victimes célèbres, c'était un homme très puissant du Parti conservateur. Il s'appelait John Profumo, il était ministre de la guerre. Et en 1963, le journal News of the World révèle sa relation adultérine avec une mannequin de 19 ans.
Les répercussions ont été énormes.
Oui, énormes. Alors d'abord, évidemment, il nie en bloc, il n'avait rien fait. Finalement, les preuves étaient évidentes. Donc, il avoue et évidemment, il démissionne. C'est une affaire d'État qui indigne l'Angleterre. Un an après, son parti a même perdu les élections.
La famille royale n'a pas été épargnée.
Oui, et un des plus gros scandales d'État, c'est le Tampon Gate. Alors, qu'est-ce que c'est le Tampon Gate ? En 1993, alors que le prince Charles et Diana sont à peine séparés, la presse retranscrit un enregistrement téléphonique entre Charles et sa maîtresse de l'époque, Camilla Parker Bowles, qui est aujourd'hui la reine et donc sa femme. Alors voilà ce qu'il se disait. Charles dit à Camilla, « Je voudrais vivre dans ton pantalon ». À quoi Camilla répond, mais tu veux devenir une culotte ? Et Charles renchérit, ou un tampax ? Inutile de vous dire que la famille royale s'en serait bien passée.
Oui, je peux le comprendre. Les people sont aussi victimes.
Oui, et s'il y en a qui s'en souvient, c'est Hugh Grant. Hein. Un soir de 1995, il est arrêté par la police de Los Angeles, ivre mort au volant. À ses côtés, une prostituée, la totale. Et après ça, les tabloïds anglais vont interviewer la jeune prostituée pour qu'elle raconte toute cette histoire dans le détail. Alors, il y a une chose à garder en tête, hein. Les tabloïds sont prêts à payer très cher pour que les gens révèlent leurs secrets. C'est exactement la clé de leur succès.
Ça a aussi coûté cher à David Beckham.
Oui, après la famille royale, les chouchous des tabloïds, ce sont évidemment les Beckham. Hein. Et en 2004, ça frappe très fort avec une interview qui défraie la chronique. L'ancienne assistante de la star de football révèle leur relation avec beaucoup de détails intimes. Les tabloïds récidiveront avec le témoignage de plusieurs maîtresses supposées de David Beckham. Aujourd'hui encore, il nie la plupart des faits. Bref, les tabloïds, c'est évidemment de la presse de caniveau, mais ça n'existerait pas s'il n'y avait pas de lecteurs.
C'est toujours la même chose. Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin, 7h26, Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud.
Et bonjour.
Dans
bonjour.
Le face-à-face tout à l'heure, je reçois le député RN de la Somme, Jean-Philippe Tanguy.
Oui, c'est le député de la 4e circonscription de la Somme.
Parfait.
Et son voisin, le député de la 3e circonscription de la Somme, c'est notre nouveau chouchou.
Non.
C'est Mathias Renaud.
Ah.
C'est celui qui voulait interdire les trans musicales de Rennes parce qu'il pensait que ça faisait la promotion des trans, parce qu'il est très premier degré, Mathias de la Somme. D'ailleurs, son vrai métier, vous savez ce que c'est ?
Non.
C'est magistrat financier.
Ah oui.
Il s'est dit naturellement, bah, je viens de la Somme, je vais faire des maths, hein, c'est normal. Hein. Faudra l'inviter un jour. Et il va venir en Twingo et faire, bah, je m'appelle Renault, j'allais pas venir en Peugeot, c'est normal. Et après, il va gueuler sur le budget. Mais rendez-vous compte, Madame de Malherbe, on a un Premier ministre nudiste, le cornu, qui voulait faire passer des ordonnances. Alors qu'il est même pas médecin.
Oh.
Il doit être chiant à vivre, ce type.
Un peu rigolo, mais
relou, quoi. Je vais pas manger un croque-monsieur. Je suis pas homosexuel. Je vais pas croquer un monsieur. Et c'est quoi le dessert? Un millefeuille. Il y en a pas mille, hein. Je viens de la Somme, hein. Je sais compter, on me la fait pas, moi. Eh ben, prends du pain perdu, nous fais pas chier. Mais il est pas perdu, il est là. Et c'est même pas du pain, ça n'en finit pas. Donc forcément, Jean-Philippe Tanguy finit par craquer.
Silence pour la France.
Jean-Philippe Tanguy viendra, entre autres, nous parler du procès en appel de Marine Le Pen dans l'affaire du détournement de fonds du Parlement européen. Sa nouvelle défense, c'est « on est coupable ». Mais on savait pas que c'était pas bien. Et alors, il y en a un dans le lot qui a pas eu la consigne. Il m'a fait marrer, c'est le député RN, Fernand Le Rachinel. Alors lui, il a tout balancé. Il est allé dire, oui, mais c'est Jean-Marie Le Pen qui décidait qui travaillait pour qui. Voilà, on n'avait pas notre mot à dire. Mes deux assistants, effectivement, ils travaillaient pas pour moi. Donc, pile ce qu'on leur reproche, en fait. Marine Le Pen, elle était sur son banc. Ta gueule. Chut, ta gueule.
Excusez-moi, monsieur le juge, Marine Le Pen me fait des signes. Elle m'a un tranchage de gorge. Je dois couper dans mes explications. Bref, juste pour vous dire, ça a duré quoi, 15-20 ans, tout au plus. C'était très rosé, hein, comme système. C'est vrai qu'on s'est gavé, ça rapportait d'argent. Et maintenant, c'est Marine qui dit qu'il travaille. Ta gueule. Non, ta gueule. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Oui, moi. La parole est à Mathias Renaud. Marine, elle a même pas de bateau. Hein? Et Le Pen, c'est pas un stylo. Quoi? Bon, allez, bon courage avec Jean-Philippe Tanguy, qui vit même plus chez ses parents.
Il est 7h30. Dans un instant, pour la météo du journal, à tout de suite. 7h31 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Donald Trump, plus menaçant que jamais à l'égard des Européens et plus déterminé que jamais à obtenir le Groenland. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. L'Aude, toujours en proie aux crues ce matin. Et puis brider les voitures citadines à 120 km/h. Pas pour votre sécurité, mais pour faire baisser le prix. C'est l'idée du patron de Fiat.
Donald Trump qui plante un drapeau américain sur les terres du Groenland.
C'est l'image postée ce matin par le président américain lui-même sur son réseau social, juste après avoir publié cet inédit des SMS que lui a envoyé Emmanuel Macron, contre lequel il semble très en colère, car la France a décliné l'invitation des États-Unis à rejoindre son conseil de paix, dont il veut faire le concurrent des Nations Unies. Emmanuel Macron, qui a aussi appelé l'Union européenne à ne pas céder face à la pression sur le Groenland, le président américain lui a répondu cette nuit.
Je ne pense pas que les Européens vont résister beaucoup. Nous devons avoir le Groenland et ils ne sont pas en mesure de le protéger. Les Danois sont des gens formidables, mais ce n'est pas parce que vous avez accosté il y a 500 ans sur un territoire qu'il vous appartient. Donc on verra ce qu'il se passera. Mais le Groenland est très important pour nous.
Et désormais, Donald Trump menace d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français si le président Emmanuel Macron refuse de participer à son conseil de paix. Il annonce également une réunion des différentes parties sur le Groenland au sommet de Davos où il se rendra demain. Il est 7h33 sur RMC et l'Aude n'est toujours pas tirée d'affaire ce matin, même si les habitants évacués de Narbonne ont pu regagner leur domicile. Les établissements scolaires resteront fermées aujourd'hui et le département de l'Aude reste en vigilance orange au cru, tout comme son voisin de l'Hérault. À Argeliers, hier, il est tombé pour janvier l'équivalent de 4 mois et demi de pluie. Jean-Wilfried Forquès, vous êtes ce matin en direct de Villedaigne pour RMC, où la décrue s'amorce mais s'annonce très lente.
La lente décrue s'amorce depuis quelques heures maintenant. Elle a débuté au milieu de la nuit, une très très lente décrue avec un fleuve ici là, en rivière, en l'occurrence l'Orbieu, qui a atteint hier soir au plus haut 5,70 m. Alors on est loin du record enregistré lors des crues meurtrières de 1999, puisque l'Orbieu avait atteint quasiment 10 m, 5,70 m. Mais dans la nuit, déjà on a enregistré une baisse à 4,50 m, 4 m, ce qui est pour les habitants une très très bonne nouvelle. Ce qui est sûr, c'est que ici, eh bien, les routes restent barrées. Ici, la Nationale 113 qui traverse ce village de 500 habitants est en fonction depuis quelques heures. Elle n'a jamais été bloquée, mais les routes adjacentes sont fermées souvent à la situation, car avec des risques d'inondation toujours possibles à tout moment ici. Vous le disiez, les écoles restent fermées. Le groupe scolaire ici pour Villedaigne est fermé toute la journée pour la deuxième fois consécutive. Fermeture de 109 établissements scolaires dans les Corbières et dans le Narbonnais.
Jean-Wilfried Forquès en direct de Villedaigne pour RMC. Demain, ce sont le Finistère et le Morbihan qui passeront en alerte orange aux fortes pluies et risques d'inondation.
7h35 sur RMC. L'Université de Lille sur le banc des prévenus aujourd'hui.
À l'ouverture du procès de la mort de Simon Guermont-Pré, étudiant de 19 ans, mortellement percuté par un camion après une soirée d'intégration très alcoolisée à la fac où il faisait sa deuxième année de médecine. On retrouve Julie Brault en direct de Lille ce matin pour RMC. Julie, c'est vous qui allez suivre ce procès où comparaissent l'université, mais aussi les trois principaux organisateurs de cette soirée. D'abord, rappelez-nous ce qu'il s'est passé le soir de ce 8 juillet 2021.
Eh bien, c'est en plein milieu de la nuit, ce soir-là, que Simon, 19 ans, meurt percuté par un camion alors qu'il marchait à pied sur l'autoroute, totalement alcoolisé. Et quelques heures plus tôt, le jeune homme fraîchement admis en deuxième année de médecine à Lille avait participé à une soirée d'intégration pendant laquelle il a été incité à boire de l'alcool à outrance dans le cadre d'un pseudo-rite de passage, un bizutage pour lequel trois organisateurs de cette soirée sont aujourd'hui poursuivis devant le tribunal de Lille.
Ce que dénonce la famille du jeune Simon, c'est le manque d'encadrement de la part de la fac, dont l'inaction avait d'ailleurs déjà été pointée, Julie, par une enquête administrative accablante.
Oui, une enquête menée en 2022 par l'inspection de l'éducation nationale qui conclut que l'université de Lille n'a pas cherché à mettre fin aux pratiques de bizutage dont elle avait pourtant connaissance, mais que par son absence d'encadrement, elle a au contraire, je cite, « contribué à leur pérennisation », dénonce Daniel Guermont-Pré, père de l'étudiant décédé.
L'université et la faculté de médecine, où ils disent toujours le même langage, on n'est pas concerné, ce sont des soirées privées, cela ne nous concerne pas. S'ils faisaient simplement ce travail-là de prévention, en recevant les organisateurs, leur donner toutes les règles de sécurité, leur dire ce qu'est le bizutage, et les accompagner pour leurs événements.
Alors si la fac de Lille assure aujourd'hui mettre en place des actions de sensibilisation contre le bizutage, le père de Simon, lui, milite pour qu'une loi soit adoptée pour rendre obligatoire la prévention et l'encadrement autour des soirées étudiantes dans toutes les universités.
Julie Brault du service police-justice d'RMC en direct de Lille ce matin. Il est 7h37, faut-il brider la vitesse maximale des voitures citadines pour faire baisser leur prix d'achat? C'est la proposition pour le moins surprenante du directeur de Fiat, 120 km/h maximum, car rouler plus lentement nécessite moins de technologie, mais les automobilistes ne sont pas tout à fait convaincus, Cassandre Brault.
Conduire une voiture bridée, c'est difficilement envisageable pour ces automobilistes.
118 km/h, c'est pas très pratique sur l'autoroute, quoi.
Ça vaut le coup si on est en ville. Mais si on fait beaucoup d'autoroutes comme nous, c'est compliqué.
Ça pourrait être un peu dérangeant, sincèrement, sur du longue route.
Seulement 3 modèles de citadines seraient concernés. Michel, lui, est plutôt emballé.
Si vous êtes en ville, pourquoi pas, bien sûr. On n'a pas besoin, effectivement, de dépasser en règle générale, par exemple à Paris, les 50 km/h, voire les 30.
Selon le PDG de Fiat, les systèmes d'aide à la conduite ont fait grimper le prix moyen des petites voitures de 60% en 5 ou 6 ans. Un constat partagé par Guillaume Crunel, associé responsable du secteur automobile chez Deloitte.
L'électronique et la sécurité, c'est quelque chose d'extrêmement coûteux dans un véhicule.
Les équipements imposés par la réglementation européenne, mais peut-on vraiment s'en passer? Oui, mais sous certaines conditions, selon lui.
Si vous avez une voiture qui est majoritairement citadine, alors elle n'a pas besoin de pouvoir rouler beaucoup plus vite, alors elle n'a pas besoin l'ensemble, tout l'équipement qui lui permet de rouler en sécurité beaucoup plus vite.
Une proposition nouvelle de la part d'un constructeur automobile, mais qui aura selon lui du mal à convaincre les consommateurs.
7h38 en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain peut se rapprocher de la qualification directe en huitième de finale ce soir à Lisbonne sur la pelouse du Sporting Portugal. De son côté, Monaco affronte le Real Madrid de Kylian Mbappé. Coup d'envoi des deux matchs à 21h à vivre sur RMC.
Et puis le quintet, 13h55 sur l'hippodrome de Pau.
Et voici notre pronostic du jour. Le favori, c'est le numéro 5, Gardons le sourire. L'outsider, c'est le 9, Gallo du large.
C'était le journal d'Élise Dangean. Élise, justement, vous le disiez à l'instant, on l'a appris à 6h ce matin, Donald Trump qui menace d'augmenter de 200% les droits de douane sur les vins et spiritueux français. On est en ligne avec Jean-Marie Fabre, bonjour. Vous êtes le président de la Confédération des vignerons indépendants. Comment réagissez-vous ce matin ?
Bonjour. Écoutez, vous savez, on n'est pas à une menace près. On a l'habitude de ce que le président américain a aujourd'hui comme stratégie en matière de guerre commerciale, et chaque fois qu'il est perturbé sur un sujet géopolitique, on le voit bien au Groenland, on le voit aujourd'hui sur le Conseil de la paix, et bien en permanence, il brandit des menaces qui vont toucher et faire mal dans les secteurs économiques des pays concernés. Donc aujourd'hui, le secteur des vins et spiritueux reste pour la France un des trois secteurs de performance stratégique avec l'aéronautique et le luxe. Et donc, le président américain utilise son arme favorite, la menace, la peur. Et je crois qu'il fait là, en l'occurrence, une démonstration que chaque fois qu'on est faible face aux États-Unis, eh bien, en permanence, on se retrouve sur la menace qui est la sienne.
Alors, deux questions, effectivement, quelles réponses on doit apporter, mais d'abord, est-ce que cette menace, vous la prenez au sérieux ? C'est-à-dire, est-ce que jusqu'à présent, les menaces de Donald Trump qui ciblaient en particulier les vins et spiritueux français sont entrées à exécution ? Finalement, on ne sait plus à force.
C'est vrai qu'on ne sait plus, mais on a quand même un peu d'expérience maintenant. Souvenez-vous, 2020, il avait menacé et appliqué 25% de droits de douane sur les vins et spiritueux français. Je rappelle que c'est le premier pays consommateur au monde et la France y réalise son plus gros chiffre d'affaires, c'est 4 milliards d'euros. Et nous avions perdu l'équivalent de 20% de notre commercialisation en un an. Et puis, il y a eu mars 2025, souvenez-vous, déjà 200% de droits de douane étaient brandis. Bon, tout ça a fini par 15% aujourd'hui de droits de douane pour l'importation de nos produits. Et c'est de nouveau une perte de compétitivité. Donc, bien sûr que c'est récurrent chez lui et qu'on ne sait jamais où ça va arriver. Mais les marchés, nos importateurs, nos distributeurs et nos entreprises ne peuvent pas en permanence être sous la coupe, sous la menace de cette fluctuation
tarifaire qui nous fait perdre des parts de marché. La variable d'ajustement du droit international ou du non-droit international en quelque sorte, en l'occurrence. Jean-Marie Fabre, est-ce qu'aujourd'hui vous vous êtes adapté, c'est-à-dire est-ce que vous essayez de trouver des marchés autres en vous disant on ne peut pas compter sur l'Amérique ?
Alors non, on pense que l'Amérique continue à rester un marché central. Bien évidemment qu'il faut expertiser et pouvoir se développer dans d'autres zones du monde. C'est le cas en Afrique, c'est le cas en Inde, c'est le cas en Amérique du Sud, c'est le cas en Asie du Sud-Est. Mais tout ça ne se fait pas aussi simplement et on ne se substitue pas à un marché de 4 milliards en claquant des doigts. Et en même temps, on sait aussi que montrer de la faiblesse sur le marché américain, c'est demain s'exposer sur d'autres marchés. Donc on ne peut pas s'habituer et s'accoutumer à être en permanence soumis à ce type de variation. Bon, à côté de ça, on appelle malgré tout le gouvernement français au premier chef et la Commission européenne au second chef. Mais enfin, une bonne fois pour toutes, d'arrêter d'être en permanence à ce niveau de faiblesse et de faire porter sur notre secteur la totalité des difficultés économiques qu'il aura à assumer, parce qu'à un moment donné, un bras de fer politique sera mené par l'administration américaine. Je crois qu'à un moment donné, il faut purger une bonne fois pour toutes cette position-là et faire comprendre à notre premier fournisseur, n'oublions pas que l'Union européenne est le premier client des États-Unis, bien qu'il a beaucoup plus à perdre que nous si à un moment donné on applique aussi
montrer
de manière
aussi, montrer aussi que nous on peut montrer des muscles et que en quelque sorte les entreprises américaines elles-mêmes auraient trop à perdre dans ce jeu-là s'il se poursuivait. Merci Jean-Marie Fabre d'avoir réagi donc à cette information de la nuit à l'aube ce matin. Emmanuel Macron qui d'ailleurs Emmanuel Macron lui-même avait écrit juste avant à Donald Trump pour lui proposer de dîner ensemble, voire même d'organiser un G7. Je disais tout à l'heure que les textos avaient fuité. Ces textos, ils ont fuité parce que c'est Donald Trump lui-même qui a fait une capture d'écran des textos d'Emmanuel Macron et qui les a mis sur les réseaux sociaux. On y revient tout au long de cette édition, 7h43 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
J'ai décidé de renoncer à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, puisque dans un Parlement qui fonctionne, on ne peut pas passer en force et on ne peut pas contraindre son opposition.
Oui, ça c'était en octobre dernier. Depuis, les choses ont bien bien changé, puisque ce 49-3, eh ben, il va bel et bien être activé, et ce, dès aujourd'hui. Bonjour Benjamin Morel.
Bonjour.
Merci d'être en studio avec nous. Vous êtes politologue et avec vous, on va comprendre les conséquences de cette décision du chef du gouvernement. Ça commence aujourd'hui par un premier 49-3, mais il y en aura d'autres, vous allez nous le dire. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Très belle journée à l'écoute d'RMC, 7h47. Alors, faute de compromis, eh bien, il y aura un 49-3. Le Premier ministre, qui avait dit qu'il voudrait faire 100, qui s'était même engagé à ne pas utiliser le 49-3, eh bien, il sera finalement dégainé dès cet après-midi. Bonjour Benjamin Morel.
Bonjour.
Politologue, maître de conférence en droit public à l'Université Paris Panthéon Assas. Ça va marcher ? Comment ? Cet après-midi, 49-3, mais on nous dit déjà qu'il y en aura 3.
Oui, il y en aura forcément 3, parce que il faut bien comprendre, un budget, c'est un peu compliqué. Vous avez une première partie, c'est les recettes. Vous avez une seconde partie, c'est les dépenses. Donc déjà, là, on est en nouvelle lecture. Autrement dit, on relit le texte. Il va falloir un 49-3 cet après-midi sur la première partie, la partie recettes. Un deuxième sur la deuxième partie et l'ensemble du texte. Puis ensuite, c'est pas encore l'adoption totale du texte. Le texte, il va repartir au Sénat et il va revenir à l'Assemblée pour donner à l'Assemblée ce qu'on appelle le dernier mot. Et donc là, il faudra un nouveau 49-3 parce qu'il faudra un nouveau vote. 1, 2, 3, 49-3.
Benjamin Morel, le Premier ministre Sébastien Lecornu parle d'un sabotage de la part de LFI et du RN. Est-ce que c'est une mauvaise excuse ? Est-ce qu'il dit, bon, c'est de leur faute, c'est pas de la mienne ? Ou est-ce que vraiment RN et LFI ont tout fait pour saboter ce budget ?
C'est plutôt une mauvaise excuse, parce qu'en réalité, on savait très bien que le RN et la FI n'allaient pas voter le budget. On savait que c'était des opposants et que ces opposants-là, jamais ils ne rentraient dans une discussion, une collaboration avec le gouvernement. Seulement, pour arriver à faire passer ce budget, il fallait trouver un accord qui aille à minima des LR aux socialistes, voire même à une partie des écolos. Ça, Sébastien Lecornu n'a pas vraiment su le construire. Et sans doute, est-ce que c'était impossible à construire sur un PLF ? Mais il va pas accuser ceux qui sont ses partenaires et qui ne vont pas le censurer de ne pas avoir été assez coopératif. Donc il trouve ceux qui, au bout du compte, ne s'accorderont jamais avec lui et il fait reposer la faute sur eux.
En fait, c'est un peu le bouc émissaire, quoi. Ceux oui. qu'il rend responsable de ses propres échecs. Benjamin Morel, une question encore sur le calendrier. On a bien compris qu'il y aurait ces 3, 49-3. C'était censé être ce qui permettait d'en finir avec ce budget. Mais la réalité, c'est que le budget ne sera pas entré en application avant la mi-février, voire même la fin du mois de février ?
Il va falloir attendre quelques semaines. Donc là, on devrait avoir un 49-3.
Donc c'est toujours pas fini, cette histoire.
C'est pas fini. On va avoir un 49-3 annoncé cet après-midi. Il y aura sans doute une motion de censure vendredi, notamment. Et ensuite, vous aurez un deuxième 49-3, une nouvelle motion de censure. Tout ça, cette première séquence, se finit en début de semaine prochaine. Le texte fait son petit tour au Sénat. Combien de temps est-ce que ça prendra, le Sénat ? Est-ce que le Sénat rejettera ?
Est-ce que le Sénat peut jouer les prolongations ?
Oui, mais pas beaucoup. C'est-à-dire, c'était un élément de langage du gouvernement en disant le Sénat va nous embêter, ça va durer des plombs.
Oui, hier, moi, j'ai rien compris. D'ailleurs, Amélie de Montchalin m'a joué la carte de maintenant, notre vrai ennemi, c'est le Sénat. Non. Bon, en fait, non.
Si le Sénat veut faire comme il a fait sur le PLFSS, c'est-à-dire rejeter d'emblée le texte pour que ça aille plus vite, il peut, s'il veut faire durer, il peut faire durer, mais quand on dit faire durer, c'est une semaine et demie, pas plus.
On n'est plus à ça près, j'ai envie de vous dire, pour cette histoire de budget.
Et donc ensuite, le texte, quoi qu'il arrive, il revient à l'Assemblée, vous donnez le dernier mot à l'Assemblée, et si vous avez toujours une majorité de non-censure dans 3 semaines, eh bien à ce moment-là, c'est bon, le budget est définitivement adopté, le Sénat n'est clairement pas un obstacle.
Merci Benjamin Morel de nous avoir vraiment expliqué et tenu la main aussi dans ce nouveau processus, donc 49-3 à partir d'aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Le Nouveau Régime ou l'impossible parlementarisme. C'est aux éditions Passé Composé. 7h50, pendant ce temps-là, la voix de gauche d'RMC, Cécile Duflot, vient d'entrer dans ce studio. Cécile, les lycéens de terminale et les étudiants en réorientation doivent faire leurs vœux sur Parcoursup. Pour vous, il faut en finir avec cette machine à broyer des ados. Vous nous le dites dans un instant, 7h51.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de gauche, Cécile Duflot. Mais d'abord le bonus, Mathieu, avec Bruce Springsteen qui s'attaque frontalement à Donald Trump.
Lors d'un concert caritatif, avec des mots extrêmement durs, le rocker américain était chez lui dans le New Jersey et il a notamment repris un de ses tubes. The Promised Land, chanson qu'il a dédiée à Renée Nicole Good, militante politique abattue au volant de sa voiture par un agent de la police de l'immigration, ICE, cette police fédérale qui cristallise les débats aux États-Unis et cette mort qui est à l'origine de nombreuses manifestations ces derniers jours. Bruce Springsteen, sur scène, a dénoncé, je cite, « l'invasion des villes américaines par des troupes fédérales lourdement armées et masquées utilisant des tactiques dignes de la Gestapo ». Ce sont ces mots « contre les citoyens américains », dit-il. Springsteen, qui s'était déjà opposé à Reagan ou à Bush en son temps, mais qui est aujourd'hui un farouche opposant à Donald Trump, qu'il qualifie de tyran quand le président lui appelle Bruce Springsteen un débile.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
53 sur RMC et RMC Story, c'est le jour de la voix de gauche. Bonjour Cécile Duflo.
Bonjour Apolline.
Cécile, depuis hier, 650 000 lycéens de terminale et étudiants en réorientation peuvent faire leurs vœux sur la plateforme Parcoursup. C'est une machine à broyer les ados, voilà ce que vous nous dites.
Oui, je pense que maintenant on a un petit peu de recul et les chiffres sont terribles. Hein. Plus d'un quart des 18-24 ans souffrent de troubles dépressifs ou de troubles anxieux. Un quart d'une génération, et c'est la même qui est à quasi 100% concernée par Parcoursup. Donc je pense qu'il faut ouvrir les yeux sur d'autres problèmes de Parcoursup dont on ne parle pas.
Lesquels ?
Ben, les problèmes de la machine à créer de l'anxiété, parce que c'est un système qui a été conçu pour en fait faire gare de triage des futurs étudiants, mais la manière dont il est designé, c'est une boîte noire. En fait, on ne sait pas. On rentre dans Parcoursup, mais on ne sait pas du tout ce qui s'y passe. On ne sait pas quel est l'algorithme. On ne sait pas quels sont les critères d'analyse. Il y a des dates à pas rater. On crée une peur de l'échec terrible chez les jeunes, avec une réalité, hein, puisque en 2025, il y avait plus de 103 000 candidats qui n'avaient pas d'affectation. C'est plus de 1 jeune sur 10. Donc vous imaginez la quantité de stress individuel multiplié par toutes ces personnes. Et puis ça change aussi les années lycées. Les années lycées qui sont des années où quand même normalement on devrait un peu profiter de la vie. Bah, en fait, chaque DS de maths ou d'éco, ça vous met une sorte d'épée de Damoclès sur la tête. Et puis, les profs remplissent un document qui s'appelle la fiche avenir. Et ça aussi, c'est, pour certains, c'est un outil de chantage, c'est un outil de pression. Bref, ça pervertit les années lycées.
Avec une angoisse, effectivement, dès la seconde, hein, puisque les notes sont parfois prises en compte dès ce moment-là. Pour vous, c'est un système qui entraîne des inégalités d'accès au monde et à l'avenir.
Oui, parce qu'en plus, c'est vendu comme un système qui vise à mettre tout le monde sur un pied d'égalité. On fait même des lettres de motivation, mais on a vu que ces lettres de motivation, parce qu'une jeune lycéenne avait écrit une recette de cuisine, sont pas lues, alors qu'elle avait été prise, sont pas lues. En revanche, il y a des business qui se mettent en place pour aider, soi-disant, les parents, avec des tarifs, j'ai trouvé sur Internet, 450 euros pour une lettre de motivation complexe, 250 euros pour une lettre de motivation standard, ça devient complètement fou. Et qu'est-ce que ça veut dire, une lettre de motivation à 17 ans? Est-ce qu'on peut se regarder tous, se souvenir de où on était à 17 ans? Est-ce qu'on sait ce qu'on veut faire exactement de sa vie? Et puis, ça a un effet paradoxal terrible, le développement de l'enseignement supérieur privé. Plus 77% d'élèves
Parcoursup,
exactement, qui vendent dans les salons étudiants l'idée que bah, vous vous dispenserez du stress de Parcoursup en allant dans l'enseignement supérieur privé, mais en payant. Donc une vraie inégalité d'accès.
Alors on fait quoi?
Ben, je pense que il faut quand même se poser la question de ce qui fonctionnait avant. Avant, il y avait un système qu'on trouvait aussi pas bon qui s'appelait APB, mais encore avant, quand il y avait trop d'étudiants, on tirait au sort. Ben, je vais vous dire, à la réflexion, le tirage au sort, il est moins anxiogène que le fait d'avoir le sentiment que vous êtes jugé sur des critères que vous connaissez pas. C'est-à-dire que vous savez pas du tout si vous avez bien fait ou mal fait. On s'est rendu compte que, par exemple, les conseils d'orientation conseillent aux futurs étudiants en droit un certain nombre d'options au lycée, parce que ça va de pair avec la réforme du lycée. Mais en fait, les profs d'université qui décide des critères avait mis dans certaines universités le critère mathématique. Et tous ceux qui n'avaient pas fait de maths, alors qu'on leur avait dit que c'est pas ça qu'il fallait faire pour faire des études de droit, se sont fait shooter de l'algorithme. Donc il faut à minima une transparence totale sur les critères qui sont entrés pour sélectionner les futurs étudiants.
Merci Cécile Duflo, la voix de gauche sur RMC tous les mardis avec nous. Il est 7h56, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. À la une du journal de 8h, Donald Trump qui annonce ce matin vouloir taxer à 200% les vins et les champagnes français. C'est donc l'information de la matinée. La météo, beaucoup de pluie en Bretagne, un peu moins ça se calme du côté de la Méditerranée. Et puis juste après le journal, il y aura l'économie. Avec vous, Pierre Rondeau, l'épargne des Français qui se porte bien.
Oui, les Français mettent en moyenne 470 euros de côté par mois. Mais attention, il y a des disparités.
7h57, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.